Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite. Cette semaine, France Inter plus de Radioscopie, France Inter plus de Jacques Chancel. Ce soir, c'est Louise Weiss, femme de conviction, féministe, pro-européenne, pacifiste et écrivaine, qui répond au micro de Jacques Chancel. Le 16 février 1976, à 83 ans, elle termine son sixième volume de l'Illumination humaine. Elle vient d'être promue officier de la Légion d'honneur et elle raconte à Jacques Chancel Lénine, Trotsky. Elle dénonce l'absence de liberté en Russie, elle raconte la Chine, la divinisation de Mao Tse-Tung, la création de l'ASDN, sa vision européenne et le féminisme auquel elle a consacré toute sa vie, tout en désapprouvant la création d'un secrétariat d'État à la condition féminine. Plus de Louise Weiss, soirée Radioscopie sur France Inter.
Louise Weiss, il y a quelques jours, le président de la République vous a remis la plaque de grand officier de la Légion d'honneur. Avant vous, trois femmes seulement avaient obtenu cette distinction, la maréchale Lyautey, Colette, le grand écrivain, et Germaine Tillion. Dans votre discours de remerciement, vous avez dit que vous représentiez les pécheresses. Alors qu'appelez-vous pécheresse ?
Eh bien, en l'occurrence, j'appelais pécheresse les femmes qui croyaient avoir assez de force d'esprit et en même temps de jugement littéraire et artistique pour briguer l'Académie française au même titre que les hommes. Alors le président de la République m'a dit « Mais il me semble que vous avez fait allusion à vos différends avec l'Académie française. » Je lui ai répondu « Non, monsieur le président. » Je n'ai pas fait allusion à ces différends, j'en ai parlé en plein et à vous.
Il y avait eu quelques ennuis, je crois, pour ce qui concerne Colette, lorsqu'il avait été question de lui donner la croix de grand officier.
Eh bien, Hériot n'était pas content de l'insuccès qu'elle aurait eu, qui n'était pas tant, si elle s'était présentée à l'Académie française. Alors, il avait voulu montrer à l'Académie française que celle-ci avait un certain tort en n'acceptant pas Colette en son sein. Et il s'est dit, faisons-la grand officier de la Légion d'honneur. Mais il y avait eu des difficultés parce que le chancelier d'alors, Marc Bloch Dassault, qui était le frère du célèbre constructeur, n'entendait pas que la Légion d'honneur, en son titre presque le plus prestigieux, car c'est l'avant-dernier que les femmes n'ont pas encore conquis, le Grand Croix, fut donné à Colette. Car dans l'optique de l'époque, l'idée qu'une plaque vêtirait Colette au bout d'un baudrier ne lui convenait pas comme chancelier de la Légion d'honneur, parce que Colette, dans sa jeunesse, était apparue sur la scène du Moulin Rouge.
Nue.
Oui, et enchaînant une femme également, je crois, nue, une certaine marquise de Belleboeuf, qui portait un collier de chien en disant « J'appartiens à Colette ». Alors, cette scène, dans le temps, avait tout de même provoqué certains remous dans l'opinion parisienne. Le souvenir en était encore très vivant. Le chancelier Bloch Dassault ne voulait pas élever à cette promotion Colette.
Enfin, vous connaissez bien le palais de l'Élysée. L'avez-vous trouvé changé ? Car depuis Armand Falière, choses ont dû être bouleversées.
Oh, elles ont été bouleversées bien des fois. Et puis finalement, c'est toujours le même palais, avec son apparat, avec sa gloire, avec le plaisir qu'on a d'y être toujours admirablement reçu. Mais la première réception dont je me souviens à l'Élysée datait du temps d'Armand Falière. Je l'ai rappelé d'ailleurs au président de la République.
C'était dans quelle année ?
Eh bien, je pense que ça devait être avant 1914. Oui, sûrement, c'était avant 1914. Puisqu'après, c'est Poincaré qui était le président de la guerre de 14. Eh bien, avant, Armand Falière donnait des balles pour les enfants de ses hauts fonctionnaires. Et je pense qu'il trouvait de son devoir de père de l'État d'aider les filles de ces notables à trouver des maris républicains. C'est là que se bornait son féminisme, je dois dire. Si bien que j'ai félicité M. Valéry Giscard d'Estaing du sien, qui est très éclairé.
Vous êtes-vous interrogé sur le sens d'une pareille distinction? Est-ce pour vous le couronnement d'une lutte qui a commencé très tôt? Une lutte pour toutes les femmes?
J'en ai été très, très heureuse et très honorée. Et je n'y avais surtout jamais pensé. Et je me suis demandé, quand j'ai reçu la dépêche de M. Poniatowski me l'annonçant, comme c'était le jour de Noël, et sachant l'humeur joyeuse de mes confrères, ce n'était pas, comme on dit vulgairement, un canular. Et je suis très reconnaissante aux amis qui, en France, veulent bien m'encourager de cette façon-là, et qui m'encouragent d'ailleurs également à me présenter à l'Académie française.
Madame, il faut bien préciser que ce n'est pas tant la distinction qui vous flatte, c'est surtout le fait que on s'intéresse aux femmes.
Ah oui, et j'ai eu la très grande joie de voir à cette cérémonie tout à fait intime, où le président n'avait autorisé que 10 invités, ce qui est peu quand on a des frères et des sœurs, et une gouvernante fidèle, que naturellement j'ai emmenée avec moi, et pour laquelle ça a été le plus beau jour de sa vie, eh bien de voir présentes quand même des femmes éminentes, comme Madame Simone Veil et Madame Alice Saïté-Saunier, et qui m'ont dit, nous sommes venus parce que si nous occupons les places éminentes, si nous assumons les fonctions que nous assumons actuellement, eh bien nous reconnaissons que nous vous devons une grande partie de ce succès.
Vous avez beaucoup écrit, madame, et vos mémoires sont connues. Il y a eu l'enfance, il y a ensuite l'adolescence, il y a la guerre, il y a la résistance, il y a aujourd'hui, et puis il y a également demain, parce que vous l'avez précisé, vous avez 83 ans, mais vous n'en finissez pas d'écrire, et il y a ce livre qui paraîtra, j'espère, très vite, qui n'est pas encore terminé.
C'est le 6e volume de mes mémoires, le 6e et le dernier.
Et qui a pour titre L'illumination humaine. C'est déjà un bel éclairage. Que voulez-vous raconter?
Vous aimez ce titre?
Ah, c'est un très beau livre. Un très beau titre.
Un très beau titre.
Je n'ai pas encore lu le livre, puisqu'il n'est pas écrit.
Terminé, il est même
mais L'illumination humaine, c'est un titre qui a déjà une signification.
Eh bien, l'illumination humaine représente pour moi un certain nombre de constatations et un certain nombre d'émotions. Et j'ai voulu, dans ce très grand livre, qui a pris des proportions monumentales, raconter comment j'avais éprouvé le malheur et la souffrance et la joie humaine en vivant très près des communautés les plus humbles d'un certain nombre de continents. 4, je crois. Je promène le lecteur, je demande au lecteur de me suivre à travers l'Amérique que je connais vraiment très bien, à peu près dans la majorité de ses États. En Amérique centrale, en Alaska, dans les Aloïsiennes, je fais le tour du monde en ce moment, comme Phileas Fogg, mais dans l'autre sens. Et je traverse le 180e méridien aux Aloïsiennes, où j'ai failli tomber par terre, poussé par le vent, un vent de 200 000, enfin effrayant, une tempête comme il peut y en avoir à la calotte polaire. Et puis le Japon, que j'ai vu en train de digérer le message démocratique que le général MacArthur le forçait à avaler. Et puis alors, j'ai vu la Chine d'avant Mao, et puis la Chine d'après Mao, et puis l'Indochine.
Et puis Russie.
Et puis la Russie, où j'ai eu l'extraordinaire chance journalistique et en même temps humaine d'approcher les grands héros de la Révolution. J'ai tout de même connu Lénine, qui m'a donné son portrait, dont j'ai eu une impression extrêmement vive. Je me suis liée d'amitié avec Trotsky.
Vous refaites encore maintenant, aujourd'hui, ce tour du monde, c'est-à-dire revoir des pays comme la Chine, que vous avez connu avant Mao, comme la Russie.
Et depuis Mao.
Et depuis Mao.
J'ai fait partie du grand bond en avant. Je suis restée 4 mois en Chine à ce moment-là. Mais 4 mois, on a tout de même une impression qu'on ne peut pas, qui est très très différente des voyages officiels que j'avais fait avant.
Mais le titre est tout de même très explicite, l'illumination humaine. Donc, vous avez vu les gens et vous avez voulu dire ce qu'ils sont.
J'ai aussi été dans toute l'Afrique, depuis Djibouti, où les événements maintenant se précisent et sont sanglantes, comme c'était à prévoir, jusqu'à la pointe de l'Afrique et à l'île Maurice. Enfin, j'ai essayé de vivre avec les gens. Alors, je me suis contentée, à propos de ces immenses voyages et de ces impressions très fortes que j'ai ressenties, de répondre à quatre questions qui me semblent les questions essentielles dans ce monde d'aujourd'hui.
Quelles sont ces questions ?
À qui le pouvoir ? Deuxièmement, à qui le droit de vivre ? Troisièmement, en quel nom ce pouvoir et en quel nom ce droit de vivre ? Et finalement, quelle est l'arme absolue ? Alors, je réponds d'abord à la quatrième question.
Quelle est l'arme absolue ?
Selon vous, monsieur ?
La paix ?
C'est pas une arme.
Ah, ça peut être une belle arme.
C'est pas une arme, c'est un État.
Alors, quelle est l'arme absolue ?
Eh bien, l'État, l'arme absolue, c'est le lavage du cerveau.
Vous êtes pessimiste ?
Je ne sais pas, ça dépend de, avec quelle lessive on prend, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? J'ai été très frappée, ayant suivi depuis 50 ans, je puis dire, depuis le début de la Société des Nations, c'est-à-dire depuis 1920, les conférences du désarmement qui se sont tues presque sans interruption jusqu'à aujourd'hui. À quoi ont abouti ces conférences du désarmement ? À un super armement. À un super commerce des armes auquel participent tous les États qui se sont prononcés pour la paix en souscrivant à la charte d'abord de la Société des Nations et ensuite de l'Organisation des Nations Unies. Et puis les armes en elles-mêmes, elles sont innocentes. Ce sont des outils. Qui est-ce qui est ?
Je vous comprends mieux, là.
N'est-ce pas ? Qui est soit le saint, soit le criminel ? C'est celui qui abandonne l'arme ou celui qui la saisit ? Par conséquent, c'est le cerveau humain qui est le moteur du monde et qui peut soit le détruire, soit au contraire l'organiser et l'aménager en un état meilleur que celui dans lequel il se trouve actuellement. Les armes sont innocentes. Ce sont les cerveaux qui peuvent être criminels. La conquête des cerveaux est beaucoup plus importante que la conquête des armes.
Je vois maintenant pourquoi vous dites lavage de cerveau.
Alors, la manipulation des âmes, qui a comment... Vous me répondrez, mais l'éducation est une manipulation d'âme, évidemment. Mais jusqu'à présent, enfin, avant l'ère des masses médias, je dirais qu'on a manipulé les âmes par une éducation qui avait des buts très élevés, quels que soient les fois ou les idéaux vers lesquels on dirigeait les âmes de la jeunesse. Mais avec les masses médias, on s'est rendu compte de la puissance que représentait le cerveau au point de vue de l'armement et au point de vue de la puissance. Alors la conquête des cerveaux devient vraiment le but de cette course à la puissance mondiale à laquelle nous assistons actuellement.
C'est donc le cerveau qui domine le monde.
C'est le cerveau qui domine le monde.
Et qui le tue parfois.
On aimerait bien que ce cerveau agisse d'une façon bénéfique.
Alors la première question...
Alors, voyez-vous, oui, alors ça c'était la...
C'est la dernière.
La quelle dernière est l'arme question. Absolue ? C'est le cerveau. Donc,
alors la première question me paraît intéressante.
Et sa conquête est donc celle que visent ceux qui veulent la domination universelle.
Alors à qui le pouvoir ?
Actuellement, il est au plus fort. Et c'est là le drame de mon siècle que j'ai traversé, en être conscient, participant de tout cœur à ces idéaux politiques. Je crois que le XXe siècle, à ses débuts, a donné un exemple unique dans l'histoire de la civilisation en essayant de séparer le droit de la force et les combattants de la der des der, c'est-à-dire de la dernière des dernières, j'explique cette expression que la jeune génération ne connaît plus, avaient accepté dans le fond de leur cœur ce sacrifice en se disant « c'est la dernière des dernières, nous épargnons des guerres futures à nos enfants et nous allons donc séparer le droit de la force Et c'était le but de la première Société des Nations qui est née à Genève en 1920, comme vous le savez. Il y a eu cet effort constant jusque vers 1930 où la Société des Nations a changé d'aspect. Et quand les hommes qui étaient à la recherche de la puissance, ce qui est un des instincts de la race humaine, se sont rendus compte que la Société des Nations était un forum, comme il n'en existait pas d'autre, tous se sont précipités à Genève, après l'avoir un peu boudé, pour faire de Genève le forum de leurs revendications nationales. Alors, cette tentative du début du siècle a fait naufrage. Et pour moi, une des plus fortes émotions de ma vie et qui a décidé d'une partie de ma vie a été la colère, je puis dire, que j'ai ressentie quand j'ai vu à la Tribune des Nations, pour laquelle j'avais tout de même tant fait, pour laquelle ma génération s'était engagée, monter Goebbels et parler à la place où avait parlé Aristide Briand, le pèlerin de la paix, et être applaudi par les mêmes délégués. Alors là, j'ai cassé ma plume de journaliste et de directeur d'une grande publication internationale hebdomadaire qui était l'Europe Nouvelle, qui était vraiment connue dans le monde entier par l'honnêteté de ses thèses et la foi, la ferveur qu'il animait en faveur de causes qui sont restées les nôtres, comme celle de l'Europe.
Une revue que vous aviez créée.
Une revue que j'avais créée avec un abonné pour commencer et qui était devenue quelque chose de très important. Eh bien, je suis délibérément partie de l'Europe Nouvelle, j'ai abandonné cet enfant chéri parce que je n'étais plus d'accord du tout avec les institutions dans lesquelles j'avais mis ma foi. Et la Société des Nations m'est apparue comme une traîtresse par rapport à l'effort qui avait été tenté et que je vous ai décrit. Car finalement, la force avait quand même primé le droit et actuellement, c'est le cas, même multiplié en puissance à l'infini. Car nous avons fait avec quelques diplomates et quelques experts le compte des États qui font partie de l'Organisation des Nations Unies, héritière de la Société des Nations Genevoises. Selon le critère suivant, dans quels États, quels sont les États libres? C'est-à-dire les États où l'opposition au régime n'est pas en prison ou sous terre.
Il y en a beaucoup.
Nous en avons trouvé 24 sur les 150 qui composent actuellement ce que De Gaulle avait appelé le machin. Alors voilà comment je réponds à cette question. À qui le pouvoir?
Qui a le pouvoir?
Hélas, qui a le pouvoir?
Qui a le pouvoir aujourd'hui, Louise
Weiss? La force.
Mais êtes-vous pessimiste justement à ce sujet? Y aura-t-il un jour conflit entre la Chine et l'Union soviétique?
Vous savez, moi je ne suis pas Madame Soleil.
Oui, mais vous n'êtes pas tellement optimiste.
Et je ne suis pas une futurologue.
Vous êtes une sociologue.
J'essaye d'analyser les éléments, d'isoler les éléments sur lesquels nous devons réfléchir. Et je m'aperçois que, premièrement, le droit maintenant appartient à la force. C'est Hitler qui avait inauguré, je dois dire, ce mariage où la force primait le droit. Il le disait. Dans Mein Kampf, c'est expliqué. Son droit, c'était celui de sa force. Eh bien, c'est le même cas en Russie. C'est à peu près le même cas en Chine. Mais là, je voudrais ouvrir une parenthèse. Le 19e siècle, et puis le début du 20e, avait essayé de séparer le pouvoir du sacré. La séparation des églises et de l'État en a été le point culminant de cette évolution. Et les démocraties actuelles, en Amérique par exemple, en Angleterre, ont désacralisé le pouvoir. En Italie, le pouvoir est désacralisé. Or, en Russie et en Chine, sentant la faiblesse que c'était pour le pouvoir d'être désacralisé, ils l'ont, les gouvernants, les puissants, ceux qui ont le pouvoir, ont aussi voulu avoir la puissance spirituelle. Et ça, c'est une très grande caractéristique de la fin du siècle que nous vivons comme préliminaire à l'an 2000. C'est que nous sommes l'humanisme chrétien, qui à tant de personnes semble sur le point de s'écrouler, souffre de ce que le pouvoir soit séparé de la puissance spirituelle. En Russie, il ne l'est pas. Il y a une religion, c'est la religion communiste, qui est une religion d'État, avec son Christ, qui est Lénine.
Les communistes vous diront que le communisme n'est pas une religion.
Eh bien, tous les voyageurs qui vont là-bas sentent que le sacré est au Kremlin, et les Russes le sentent eux-mêmes, puisqu'ils punissent comme des renégats ceux qui ne sentent pas de la même façon. Ils leur lavent le cerveau, et d'une façon, quelquefois, même maintenant, directe, par des manipulations que nous connaissons.
Dans le compte que vous avez fait des pays libres, l'URSS tient quelle place ?
Non, l'opposition...
Il n'y a pas d'opposition.
Nous avons posé comme critère les pays où l'opposition n'est pas en prison ou n'est pas sous terre.
Donc
je
pas de liberté.
Je n'ai pas pu mettre la Russie dans ces 24, n'est-ce pas ? Mais le cas de la Chine est extraordinairement intéressant. Car là, la déification du pouvoir est patente. Mao est le dieu. Et je vais vous dire quelle a été justement une de mes plus fortes impressions et une des explications les plus profondes de du succès de cette déification. Car comme dit Jacques Bonhomme, il faut le faire. J'ai tourné un film en Chine, dans la Chine de Mao, après avoir d'ailleurs vu la Chine en décomposition que Mao a remise sur ses pieds. J'ai été, à la suite de ce film, où j'avais eu beaucoup d'obstacles à soulever, à contourner ou à vaincre ou à franchir, autorisé par le gouvernement chinois, sans avoir fait aucune concession dans mes prises de vue ni dans ma manière de voir, à visiter la Chine librement. Ils m'ont dit « Votre itinéraire est le nôtre. J'aurais pu y rester pendant des mois. » Enfin, en tous les cas, je me trouve un jour dans l'ancienne capitale chinoise de Xi'an, qui est précisément le site où on a trouvé cette remarquable armée de 6 000 guerriers en terre cuite, enterrés de la période Tang. C'est une ville très intéressante et où il y avait une pagode qui s'appelait la pagode du dragon endormi. Alors je dis à la jeune interprète qui m'avait été envoyée par une touriste chinoise, et je lui dis, elle me dit, vous allez venir voir les crèches, vous allez venir voir notre nouvelle... Je dis, non mademoiselle, je regrette, je n'ai pas beaucoup de temps, mais vous savez, les crèches, les derrière des petits-enfants, chinois ou français, ce n'est plus un spectacle de mon âge, et au reste, il y a beaucoup de maternelles en France, ce qu'elle n'a pas cru, parce qu'on avait expliqué aux Chinoises qu'elles étaient les premières à créer des maternelles dans leur pays. Je veux aller voir le temple du dragon endormi. Alors elle me dit, mais vous n'y verrez pas de dragon. Ah, je dis, mais je ne m'attendais pas à trouver là-bas des dragons. Si, si, me dit-elle. On y allait parce que il y avait là-bas un dragon endormi. Enfin, c'est ce que nous allions voir, enfin, c'est ce que vous voulez voir. Alors je lui dis, non, mademoiselle, dans ce temple du dragon endormi, il n'y a pas de dragon endormi ou réveillé. C'était le surnom que des moqueurs avaient donné à un bonze paresseux qui s'occupait de ce temple et qu'on a appelé le dragon endormi. Le surnom, le sobriquet, est resté au temple. Elle m'a dit non. Il y avait là des dragons. Et vous savez, maintenant, il n'y a plus de dragons en Chine. Parce que le président Mao les a tous tués. Et le président Mao nous a délivrés des dragons. Et c'est pour ça que nous le suivons. Il faut comprendre que la Chine d'avant Mao vivait dans la terreur, dans les ténèbres, dans le malheur, dans l'ignorance.
L'ignorance, surtout.
Dans la maladie. Le président Mao, dans la terreur des esprits mauvais, des démons, les portes des maisons donnaient en chicane sur des murs pour que les dragons s'y cassent la tête. On trouvait des guerriers menaçants avec des rictus et des sabres gigantesques à tous les carrefours. Les esprits malins terrorisait le peuple chinois. Mao a pris sur lui, et dans ses poèmes, il le dit de temps en autre, de détruire les dragons, les mauvais esprits. Et il a délivré la Chine, les 700 millions de Chinois, de l'angoisse dans laquelle ils vivaient, et il les a lancés dans le courant de la civilisation générale, par l'alphabétisme, par les hôpitaux, par un système social, par un esprit collectif, mais qui a abouti à sa déification, dont je vous explique les racines profondes que j'ai surprises de cette façon et qui est justement un des thèmes de l'illumination.
Donc humaine. La Chine sacralisée.
La Chine a sacralisé le pouvoir. Alors, le pouvoir est d'autant plus fort qu'il est sacralisé.
Mais Louise Weiss, ayant aujourd'hui éclairé l'illumination humaine, quelle idée vous faites-vous des hommes pour l'avenir ? Car c'est peut-être sûrement l'aboutissement de votre enquête, de votre témoignage.
Oui, je suis en train d'essayer de formuler une réponse à cette question si difficile que vous me posez.
Car vous avez quand même cheminé ce siècle.
Oui, je suis allée aussi voir les sages de l'Himalaya, par exemple. Parce que vraiment, j'ai voulu mener mon enquête à fond. Et je me suis dit, qu'est-ce que ces sages qui fascinent une partie de l'Occident peuvent apporter à notre effort, à notre civilisation générale? Eh bien, cette réponse-là, je peux vous la donner après avoir répondu à votre question. Eh bien, je trouve que tous les hommes fondamentalement se ressemblent, qu'ils soient aztèques, qu'ils soient zoulous, qu'ils soient français, qu'ils soient américains, qu'ils soient chinois, qu'ils soient vietnamiens. Que veulent-ils? Ils veulent être heureux. Ils aspirent au bonheur. Toute la question est de savoir, par conséquent, à quel bonheur ils doivent aspirer. Alors, je crois que dans la civilisation occidentale actuelle, personne n'indique aux masses quel doit être leur bonheur en dehors de la machine à laver, de la retraite, de la sécurité à tous les points de vue, de la sécurité sociale à tous les points de vue. Ils savent que leurs enfants seront éduqués, qu'ils auront des retraites, mais il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien de sublime dans ce qui leur est proposé. Et je crois qu'ils sont actuellement à la recherche du sublime, mais du sublime lié à une notion de bonheur. Aucun peuple n'est habitué à sa misère, comme trop de personnes peuvent vous le dire, en disant, après tout, ils sont habitués à leur misère. Combien de fois est-ce que j'ai entendu cela qu'en visitant les Indes, qui sont dans une misère affreuse? Car tous les progrès qui sont faits sont avalés par une démographie galopante et la misère augmente, malgré tout, l'intérêt qu'on leur porte.
Les gens veulent le sublime.
Les gens veulent avoir des raisons de vivre. En dehors, la raison de vivre, c'est le bonheur, mais ils ne peuvent pas concevoir ce bonheur, je crois, sans que leur instinct du sacré soit satisfait. Car finalement, qu'est-ce qui distingue la race humaine de la race animale? C'est qu'elle s'occupe de ce qui ne la regarde pas. La race humaine se caractérise, à mon avis, d'une part par l'instinct de domination. Aucun animal n'a un instinct de domination.
C'est pessimiste ce que vous dites. Donc nous avons l'intelligence en
nous. Nous avons un instinct de domination qui est corrigé ou doublé par l'instinct du sacré, qui n'habite pas non plus
l'animal.
Les autres espèces vivantes. Alors il faut que cet instinct du sacré et que cet instinct de la puissance fassent bon ménage, que l'un ne domine pas l'autre, que l'autre ne domine pas l'un. Et alors actuellement, nous sommes dans une grande période de mutation, et ceux qui sont emportés par leur volonté de puissance, par leur volonté de domination, se sont saisis de l'arme absolue qui était la conquête des cerveaux. Alors, jusqu'où cette conquête peut-elle aller? Est-ce que nous aurons un homme unidimensionnel, pour reprendre dans un sens un peu différent la fameuse formule du professeur Marcuse? J'ai eu un peu cette impression en Chine, où il y avait une uniformité.
L'homme unique.
Oui, j'allais presque dire le robot, l'homme unique, l'homme qui agit automatiquement selon des réflexes conditionnés, téléguidés.
Quelle tristesse!
Oui! Évidemment, c'est triste de voir cela en Chine. Mais, si vous me demandez, est-ce que pour vous, qui êtes à la recherche de toute la solution de tous les problèmes que vous venez de me poser, est-ce que Mao s'en va de ce monde avec un bilan positif? Eh bien, quels que soient les morts que son régime ait causé, oui, son bilan est positif.
Oui, le bilan est positif.
Parce qu'il a sorti vraiment un peuple de 700 millions de malheureux, effrayés par les démons et sans espérance de vie, pour lui donner le sens d'un destin.
Mais vous, Louise Weiss, lorsque vous faites le compte de votre vie? Le bilan est-il positif? Oui, sans doute, parce que si l'on y regarde d'un peu plus près, vous avez été l'une des plus jeunes agrégées, la première agrégée française.
Ah non, parce qu'il y a des générations d'agrégés avant moi. Qui m'aurait éduqué sinon une agrégée?
Vous êtes agrégée de lettres.
Agrégée de lettres.
Mais quand même, vous êtes agrégée de lettres, mais vous n'avez jamais osé dire à votre père que vous étiez agrégée de lettres. Vous avez profité du drame de 1914 pour lui dire « Tu sais, papa, je suis agrégée de lettres ».
Ah oui, parce que ma mère avait dit « Une mauvaise nouvelle fera passer l'autre ».
Et pourquoi était-ce une mauvaise nouvelle?
Eh bien, parce que mon père, qui était un homme fort, intelligent, était tout de même encore gouverné, si je puis dire, par des tabous qui étaient à son éducation alsacienne, luthérienne, à ses milieux, son origine bourgeoise, rhénane.
Les femmes à la maison, la cuisine, les enfants.
Les trois cas.
L'église.
Küche, Kirche, c'est-à-dire, c'est une formule alsacienne. L'église, les enfants et la cuisine. Alors quand il s'est vu père d'une petite fille qui, dès le début de sa vie, se passionnait pour tout ce qui l'entourait et qui voulait avoir des explications du matin au soir, il était importuné, il me chassait comme une mouche. Il n'a pas du tout aimé l'idée que je pourrais faire des études supérieures, puisqu'on m'a envoyé dans une école de cuisine après tous les années de prix d'excellence et de bonne conduite que j'avais remportées au lycée, qui, à ce moment-là, ne permettait pas aux femmes, dont les diplômes de fin d'études ne permettaient pas aux femmes d'entrer à l'université. Parce qu'il ne faut pas croire que les lycées de filles en France et l'éducation secondaire des filles aient été faites dans l'intérêt des filles. Elles ont été faites dans l'intérêt des républiques.
Toute votre vie, vous l'aurez consacrée à la lutte pour les femmes, et votre victoire suprême serait donc, et je l'ai bien compris, une entrée magistrale à l'Académie française, non pas parce que vous revendiquez les honneurs.
L'Académie française ne veut pas de femmes.
Elle n'en veut pas. Pourtant, rien dans les statuts de 1635 n'interdit formellement l'entrée d'une femme à l'Académie sous la coupole.
Ah non ? Mais ils ne veulent certainement pas les femmes. Et j'ai eu un face-à-face avec M. Missler, le secrétaire perpétuel, qui est beaucoup plus anti-féministe au point de vue de l'Académie que M. Genevoix, qui est venu, je crois, devant votre micro tout récemment.
À la télévision, oui.
M. Missler s'est prononcé absolument contre cette intrusion, et de la façon la plus violente. Je crois même que dans le privé, il m'a traité de bougresse, croyez-vous. Il avait complètement oublié une chose que je rappelle aujourd'hui pour la première fois, et que je me réserve de lui rappeler personnellement, c'est qu'entre les deux guerres, il est un peu plus jeune que moi, mais pas beaucoup, lorsque je dirigeais l'Europe Nouvelle, j'avais créé un prix pour le meilleur ouvrage politique de l'année. Dans le jury de ce prix se trouvait Léon Blum, se trouvait André Tardieu, se trouvait Bartou, se trouvait Herriot, je crois, Georges Bonnet, Avenol de la Société des Nations, c'est vous dire que c'était vraiment le jury des grandes têtes de l'époque. Monsieur Missler mourait d'en faire partie. Et il est intervenu auprès de moi, j'ai encore ses lettres, me disant j'aimerais tant faire partie de ce jury. Après tout, j'avais distingué en lui un homme très lettré.
Vous réglez un compte en ce moment.
Oui, je règle un compte. Et je lui ai demandé d'entrer dans ce jury. Et je lui ai ouvert la tribune de l'École de la Paix, et qui appartenait toutes les semaines à des hommes comme Van der Velde, comme Pogitis, les grandes vedettes de l'époque. Alors, je m'étonne de son opposition, non seulement générale, mais personnelle,
mais vous savez,
à cette candidature.
Vous savez, Louise Weiss, bougresse, ça rime avec pécheresse.
C'était
peut-être dit dans un très bon sens.
Ah, je ne le crois pas, parce qu'il a mené, il s'est démené pour que cette candidature, qui n'avait d'ailleurs que très peu de chances de réussir, soit un échec complet. Enfin, j'ai quand même eu 5 voix, qui ont montré que l'Académie n'était pas complètement insensible
aux
problèmes que je voudrais régler.
Enfin, oublions l'Académie et rendons-nous compte que la route a été bien suivie, que les choses ont bien changé, car la position des femmes au début de votre carrière était complètement différente de celle d'aujourd'hui. D'ailleurs, les femmes, on les rangeait par catégorie. Il y avait la femme légitime, il y avait l'autre, c'est vous-même qui le dites, il y avait la danseuse et la belle-mère, il y avait la cousine pauvre, et puis il y avait la tante à héritage. Alors aujourd'hui, nous avons même un secrétariat d'État à la condition féminine. Vous pensez que c'est bien ou vous croyez que c'est inquiétant?
Ah, vous allez me dire que je règle encore un compte dans ma réponse. Moi, je ne suis pas d'accord avec la dénomination d'un secrétariat à la condition féminine. Cette dénomination va à l'encontre de ce que les suffragistes ont cherché, c'est-à-dire à assimiler complètement dans la vie civique les hommes et les femmes. Alors, s'il y a une condition féminine, il y a aussi une condition masculine et une condition enfantine. Et finalement, psychologiquement, et là je parle en sociologue, l'idée de la condition féminine, ainsi publicisée, pour parler le franglais, n'est-ce pas, donne deux types de femmes. Celles qui, au nom de l'égalité, demandent des privilèges, ce qui me paraît fort regrettable, ou celles qui disent, en pleurant, je suis une pauvre femme, il faut m'aider. Eh bien, mon idéal...
L'humilité féminin, ou l'orgueil.
Voilà. Alors, la juste voie... Le juste milieu, comme dirait le Bouddha, ça ne remonte pas à, ça remonte à plus bien avant qu'hier, avant-hier, dans l'histoire, la juste voie n'est pas éclairée par cette dénomination. Je m'en suis d'ailleurs expliqué publiquement. Et ça n'empêche que la condition féminine ainsi présentée a pu permettre à certaines femmes de prendre conscience de leur rôle. Mais philosophiquement et scientifiquement, en parlant sociologie, je ne trouve pas que cette dénomination ait rendu service.
Enfin, Louise Weiss, au début de ce siècle, vous étiez suffragette. Êtes-vous aujourd'hui féministe?
Ah, je le suis restée. Et j'admire d'ailleurs la nouvelle génération. Je la trouve d'un intérêt, dans ses expériences quelquefois malheureuses, d'une vitalité, d'une conscience d'elle-même, absolument extraordinaire. Et quand je compare une réunion de jeunes femmes à la réunion des jeunes femmes qui entouraient ma grand-mère il y a 60 ans, quelle différence ! Les unes étaient vraiment d'un ennui qui me paraissait déjà mortel, à la petite fille que j'étais, tandis que à la vieille dame que je suis, ces jeunes femmes me semblent d'une vitalité remarquable et d'une conscience et d'une force et d'un courage qui mérite hommage.
Enfin, vous dites vous-même, la femme autrefois était majeure pour ses fautes et mineure pour ses droits.
Ah oui, c'était le grand slogan.
Majeure pour ses fautes, mineure pour ses droits.
Mais oui, parce que dans le code criminel, on ne faisait pas de distinction entre les Français et les Françaises. Les Français qui auront commis telles et telles actions délictueuses ou criminelles, ce terme de Français comportait Français et Françaises. Tandis que quand on disait les Français ont le droit de vote, dans le code administratif ou dans le code civique, ça ne voulait pas dire la même chose. Les Français, c'était les Français seuls et pas les Françaises. Alors, dans ma campagne féministe, j'ai posé la question au Conseil d'État, en leur disant, messieurs, voulez-vous m'éclairer sur ces définitions différentes du mot de Français qui régissent une constitution et un régime que vous avez le devoir d'éclairer et de conserver? Alors pourquoi est-ce que nous sommes majeurs pour nos fautes et mineurs pour nos droits?
D'ailleurs,
j'avais affiché ça avenue des Champs-Élysées dans ma boutique de propagande.
D'ailleurs là, j'emprunte à ce que vous disiez, les mains des femmes ne sont pas faites pour porter un bulletin de vote dans l'urne, mais pour raccommoder des chaussettes, disait un député.
Oui, oui, aujourd'hui elles ne sont pas faites pour porter l'habit vert.
Enfin, j'ai l'impression, Louise Weiss, que vous avez choisi une vie de militante pour échapper à la vie, comme vous disiez, des pépés bridgeuses. Et ça avait l'air très péjoratif, ce que vous disiez.
Je n'ai pas employé le mot de pépé.
Ah, je l'ai lu quelque part.
Non,
comme si toutes les femmes devaient partir pour le combat.
N'est-ce pas? Je crois qu'on peut utiliser ses loisirs autrement. Je ne condamne pas celles qui aiment le bridge. Pas plus que je ne peux trouver mauvaise celle qui se consacre à la tapisserie. Non, c'est une occupation. Maintenant, je pense que d'abord, les femmes ont autre chose à faire, évidemment, que de jouer.
Ça, vous aurez tout fait dans votre vie militante, bien sûr, agrégée de lettres, secouriste, propagandiste, journaliste, idéologue.
Je voudrais que mon épitaphe...
fût laquelle?
Oui, ici Gilles-Louise Weiss, n'est-ce pas? Qui ne regrette que ce qu'elle n'a pas fait, c'est-à-dire pas grand-chose.
Donc le bilan d'une vie pour vous est positif?
Oui, quand je me laisse convaincre par ceux qui m'entourent, mais quand je compare avec ce que j'aurais voulu faire ou pu faire et que je n'ai pas fait, alors le bilan n'est pas aussi positif que...
Enfin, nous sommes convenus de croire tout de même que c'est le défi d'une Européenne au malheur.
Le défi d'une femme, d'abord, peut-être. Et puis, d'une citoyenne. Et puis, d'une unité de civilisation et de l'Europe. Et peut-être un défi général à l'interprétation actuelle du monde.
Le féminisme, et vous l'aurez bien prouvé, n'est pas incompatible avec la féminité.
C'est vous qui le dites, monsieur.
Je vous pose la question tout de même.
Ah non, ce sont des domaines tout à fait différents. Et je crois qu'on a eu tort, justement, dans le passé, ce sont surtout aux Anglaises que je pense, de ne pas vouloir garder leur féminité en même temps qu'elles se lançaient dans la campagne pour le suffrage. Vous connaissez peut-être le mot d'esprit de Mark Twain, qui a dit, en jugeant les suffragettes déchaînées en Angleterre, « Ce sont des femmes qui désirent violemment quelque chose et qui s'imaginent que c'est le droit de vote. » Alors j'avais bien endoctriné mes camarades et mes amis et mes collaboratrices dans le mouvement de la femme nouvelle que je dirigeais en disant « Soyez charmantes, portez de jolis chapeaux, tâchez qu'ils soient blancs pour que nous nous reconnaissions plus facilement dans les manifestations souvent mouvementées qui nous séparent les unes des autres. » Mais rappelez-vous que vous êtes d'abord des femmes comblées au point de vue féminin et que vous voulez simplement l'égalité civique. Ne confondez pas les genres.
Merci Louise Weiss, nous pourrions rester très longtemps encore, mais je vous promets de vous accueillir une nouvelle fois parce que nous aurons l'occasion de reparler de ce livre qui va paraître, que vous terminez en ce moment.
Je termine, avec fièvre.
Qui a pour titre L'illumination humaine. Je crois que c'est un beau titre et cela nous permettra d'aller encore plus loin.
C'était le NRV France Inter plus de Radioscopie, deuxième épisode, Louise Weiss. Demain, un autre grand personnage, Raymond Aron. Je vous souhaite le bonsoir.